10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec l'imam Abdelali Mamoun qui est très réchauffé ce matin, il est en t-shirt en studio.
Oui, salam alaykoum, mon casque ne fonctionne pas, mais ce n'est pas à cause du casque, c'est à cause du branchement. Qui n'est pas
bon. Mais c'est pas besoin de vous entendre.
Qui laisse à désirer.
Façon, j'ai pas besoin de vous
non,
entendre.
On n'a pas besoin de casque pour l'instant.
Le principal, c'est qu'on vous entende.
C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable d'être avec.
Enlevez votre casque, voilà. Touché.
Voilà.
Alors ça, c'est bravo. Alors là.
Non, il était comme ça.
Donc, l'imam là... a démonté la prise. Ah ben ça va pas marcher,
c'est
l'imam.
C'est plus qu'une prise. C'est depuis la semaine dernière, il est comme ça.
Ah.
Ouais. Bon, c'est pas grave. Je l'avais signalé à Fourdail la semaine
dernière. C'est vrai, mais il est fatigué en ce moment.
Mais c'est pas grave.
Il est fragile. Mais vous êtes très réchauffé aujourd'hui pour être en t-shirt.
Je suis bien, franchement.
Vous avez mis votre damar?
Non, parce qu'il fait bon à l'intérieur. Voilà, normal. Et puis quand je sors dehors, j'ai mon gros manteau. Je sais pas comment on appelle ça.
On appelle ça une parka.
Une parka.
Avec un col en fourrure.
Voilà, tout ça, c'est superbe. Parfait. Ça réchauffe bien à l'extérieur.
Ah ouais, vous êtes très réchauffé. Alors,
et non, mais je sais pas, il fait pas froid à l'intérieur. Moi, j'ai pas froid, quoi.
Non, on n'est pas froid, ça.
C'est non, ça va. Bon, ça va très bien.
On verra si vous n'avez pas froid jusqu'à la fin de l'émission.
Bon, et toi, sinon, ça va, Philippe?
Bah, écoutez, ça va. Je vous vois, donc ça va tellement mieux depuis que je vous vois.
Ah bah, c'est super.
Parce que le samedi, dès que je vous
content.
Vois, ça va.
Si je suis une source de bonheur pour toi, Philippe.
Vous savez que quand vous croyez avoir tout entendu dans votre vie, voilà. Vous n'avez rien entendu.
Voilà.
Oui, c'est ça. Vous êtes une source de bonheur pour moi, inégalée, Imam Abdelali.
Oui.
Bien. On va reprendre le fil de ces émissions. Alors, on démarre toujours cette émission avec une qualité à mettre en avant. Et cette semaine, nous allons parler de la perspicacité.
Oui, c'est la rare. On a rarement parlé de cette qualité.
Ouais,
de cette caractéristique prophétique. Effectivement, ce n'est pas une caractéristique propre à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais une caractéristique propre à tous les prophètes. Une qualité essentielle et indispensable chez les prophètes, c'est cette perspicacité. Alors, d'abord, il est important que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. Alors, il faut juste que je me remets.
Ouais, il faut définir la perspicacité, d'abord, qui n'est pas un mot très utilisé d'ailleurs. On dit souvent de quelqu'un, oui, tu es perspicace.
Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, en arabe, comment on le dit? On dit le mot fitna. On dit fatinun. Le prophète dit dans un hadith, el mu'minu kayyisun fatin. Attention avec un ta. Fatin. Et on dit qu'il a de la fitna. Et non pas fitna.
Oui, parce que moi je pensais à la fitna.
Il y a la fitna avec le ta, avec le ta en adouci. Mais une autre lettre dans l'alphabet, Philippe, je suis sûr que depuis cette décennie que tu apprends l'arabe, tu maîtrises parfaitement la différence entre le ta et le ta. Eh bien, le ta, fitna, c'est la discorde, la zizanie, l'épreuve, etc. Et tous les mots négatifs que peut bien donner en arabe ce mot fitna. Et vous avez le mot fitna. Fitna. Il y a même un prénom féminin qu'on donne aux gens.
Voilà, mais c'est femme, Fatna.
Fatna. Eh bien, Fatina. À l'origine, ouais. C'est Fatina. Ouais. Fatna. C'est avec un ta. C'est le Fatna de la femme qui est perspicace, éveillée, qui a une intelligence, c'est-à-dire qui est contraire à quelqu'un d'abruti, d'idiot, qui est au contraire.
C'est pas très répandu d'ailleurs comme prénom Fatna.
Dans le monde, au Maghreb, si. Maghreb, il y a énormément de Fatna. Les Fatna, c'est. Attends, le mot Fatna, tu vas bien dire que.
Oui, non, le mot Fatna, mais par exemple, vous en connaissez combien des Fatna, vous, dans votre entourage?
Bah, déjà, il y a ma tante qui s'appelle Khalti Fatna.
Ma tante.
J'ai même deux tantes qui s'appellent Fatna.
Voilà. Mais après.
Après, il y en a. Si.
C'est pas des prénoms qui sont donnés aujourd'hui.
C'est surtout de la génération précédente, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, la nouvelle génération.
Oui, des 40-50, en fait.
Même moins, même plus. Ouais. Alors ceux qui sont nés avant, ceux qui sont nés avant, on s'appelle Fatna. Aujourd'hui, on a très rarement effectivement des Fatna, mais c'est un prénom qui existe au féminin. En masculin, il n'existe pas. On dit pas Fatin. Si on dit que c'est un adjectif, c'est-à-dire c'est un attribut que l'on va donner à quelqu'un, on dit qu'il est Fatin, perspicace. Mais voilà. Alors quelle définition dans le dictionnaire on a pour parler de ce mot-là? Eh bien, c'est celui qui est doué d'une intelligence pénétrante et subtile, qui saisit ce qui échappe à la plupart et peut établir des prévisions. Alors, synonyme de ce mot-là, c'est clairvoyant, lucide, pénétrant, sagace. On dit quelqu'un qui a une sagacité, une perspicacité, une sagacité, c'est à peu près la même chose. Et donc voilà, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté de cette qualité, ainsi que tous les prophètes avant lui. Alors parlons justement de ces prophètes avant lui. Et il y en a un justement qui va se démarquer de cette caractéristique, c'est le prophète Sulayman, hein, le fils de Daoud, le fils de David. Donc Salomon, en français, fils de David, fils de Daoud, alayhi salam, était un prophète perspicace. Puisque en effet il y a eu un récit dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala évoque cette qualité dans lequel Sayyidina Sulayman a usé de cette qualité, de cette caractéristique pour justement trouver ou du moins proposer ou délivrer un jugement le plus adéquat à une situation complexe. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est le Coran qui parle, c'est même pas la parole du prophète, c'est directement le Coran. Donc le prophète dit, le Coran dit id nafashat fihi ranamul qawmi. Il parle de quoi ? Il dit que Daoud, à l'époque de Daoud, à l'époque où Daoud est le roi et que Sulayman est le prince, donc l'héritier du trône, eh bien deux clans de personnes viennent se plaindre auprès du roi David pour lui demander un jugement. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez l'un qui dit voilà, les moutons de mon voisin sont rentrés dans mon champ et ont avalé toute la récolte. C'est-à-dire qu'ils ont brouté toute la récolte, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Ça, c'est l'agriculteur qui se plaint de celui qui avait qui pratiquait une activité pastorale, donc qui avait des moutons, et ces moutons sont rentrés dans le champ de l'autre et ont tout avalé. Et le roi David n'a pas trouvé d'autre sentence et de jugement que de tout simplement exproprier les moutons du voisin et de dire maintenant ils sont la propriété de ton voisin. C'est-à-dire celui qui était agriculteur, à qui tu as mangé dont les moutons ont mangé l'intégralité
de la récolte,
mm-hmm. il devient propriétaire de tes moutons. Et donc Sulayman, qui entend son père prendre ce jugement, il dit je trouve que c'est injuste. Il trouve que c'est injuste. Il dit que non, parce que est-ce que les moutons ont mangé la terre, le terrain? Ils n'ont pas pris l'essence même de ce qu'était... Alors que les moutons, c'est l'essence même du bien de l'autre. C'est vraiment tout ce qu'il a, c'est ses moutons. Il n'a rien d'autre. Alors que là, la récolte, c'est que le fruit de ce qu'il possède, c'est-à-dire le terrain. Donc si, effectivement, les moutons avaient consommé le terrain en soi, mais bon, il ne peut pas manger ce terrain, bien entendu, donc ça aurait été juste qu'ils prennent les moutons, mais là, non. Et donc Dieu, dans le Coran, va nous dire « Wa Daoud wa Sulayman, id yahkumani fil harf » Et David et Salomon, quand ils décrétèrent concernant la récolte, id nafashat fihi ranamul qawmi, et quand les moutons ont avalé, mangé toute la récolte du voisin, wa kunna li hukmihim shahidin, alors que nous, Dieu, nous étions à l'égard de cette décision juridique témoins. Fa fahamnaha Sulayman. Nous avons donné à Sulayman cette perspicacité, cette compréhension de donner un jugement juste à l'égard de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Wa kullan atayna hukman wa ilma, alors que les deux, Dieu avait accordé aux deux prophètes une sagesse et un savoir. Fa hamida Sulayman wa lam yalum Daoud. Fa hamada. Donc Dieu a loué, a élogé Sulayman, mais sans faire de reproches à David. Donc Dieu n'a pas dit que ce qu'a décidé Daoud était mauvais, mais il a considéré que la décision prise par Sulayman était plus perspicace et plus juste. Donc à travers ce hadith rapporté par le Bukhari, qui explicite justement l'histoire dans les détails, bien il dit que le prophète voit dans cette histoire-là une leçon où Dieu n'a pas reproché à un juge de commettre des erreurs. Parce que sinon, il serait en perdition. Les juges seraient tous en perdition parce qu'il n'y a pas de juge qui ne peut pas commettre d'erreur. Et là, David s'est trompé. Il n'a pas pris la bonne décision. Et c'est Sulayman qui vient lui corriger, lui dire voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il lui dit de faire ? Ben, il dit à l'agriculteur qui était propriétaire eh bien, du terrain dont la récolte a été bouffée et mangée par les moutons du voisin, eh bien, lui dit, écoute, tu vas garder les moutons de ton voisin. Tu vas utiliser l'usufruit de tous ces moutons-là. Donc, tu vas pas manger c'est-à-dire récupérer le maïs, ça veut dire les moutons en tant que tels, mais simplement le fruit de ces moutons-là, le temps que ta récolte revienne
mais
et redevienne.
C'est quoi le fruit des moutons?
Bah, c'est le lait, la laine, même les petits, les nouveau-nés, puisque les nouveau-nés, puisque c'est lui qui va les entretenir, il est normal qu'il récupère les nouveau-nés, c'est-à-dire tous les moutons en tant que, imaginons, il y avait 500 moutons, 500 têtes de moutons, eh bien, il est censé, au bout d'un an, quand la récolte revient telle qu'elle était, eh bien, il restitue les 500 moutons, et tout ce qui n'est pas des 500 moutons, la laine, le mouton, le lait, des chèvres, etc., et des brebis, qu'il aurait pu profiter, eh bien, reste l'usufruit dont a profité le voisin qui a été lésé et qui a été victime de son voisin. Donc voilà comment Souleymane va, avec perspicacité, donner la meilleure des solutions dans cette histoire, qui, je rappelle, est citée dans le Coran.
D'accord. Est-ce que ça marche pour celui qui mange les gâteaux dans mon armoire?
Voilà, par exemple, on a un exemple.
Si j'ai quelqu'un qui mange des gâteaux dans mon armoire et qui me laisse le paquet vide, est-ce que je considère qu'il est à moi?
Alors, la question, c'est est-ce que t'es prophète pour avoir la perspicacité découvrir qui a commis ce crime?
Ce délit.
Non, c'est un crime.
C'est un crime.
C'est un crime, Philippe. Il faut l'appeler un chat, un chat.
Des gâteaux.
Quelqu'un qui bouffe les gâteaux de Philippe Robichon.
Que Karima Chadibaou m'a rapporté de Corse, que je gardais jalousement. Pour le samedi avec Fodil pour boire un café, ben voilà.
En tout cas, c'est pas moi. Tu sais pourquoi? Parce que je ne me rappelle même pas du code pour entrer dans le studio.
Non, je sais que
donc
c'est
je
pas
suis
vous.
Pas rentré en l'absence de quiconque.
Vous, j'aurais pas retrouvé le paquet.
Ah. Non, voilà, je sais pas. Il y aurait eu des miettes par terre, peut-être.
Bon,
il y aurait des traces.
En tout cas, ce que vous dites, c'est que ça ne s'applique qu'aux prophètes, alors.
Oh, alors non, je dis pas qu'il y a des hommes. Non, par exemple, l'imam Shafi'i était un homme d'une très grande perspicacité aussi. Par exemple, on sait que des hommes après la mort du prophète, et en tout cas, nous, musulmans, qui avons comme modèle le prophète et les prophètes, sommes invités à éduquer nos enfants, à avoir de la perspicacité, et de ne pas éduquer nos enfants à être abrutis, et notamment par les écrans. Aujourd'hui, on parle souvent des écrans comme des moyens pour abrutir les gens. Il faut que nos enfants soient engagés dans par exemple, des jeux d'enquête, jeux d'échecs, d'intelligence, des jeux où il faut des quiz, par exemple, où il faut deviner à travers un certain nombre d'éléments. Tu sais, je sais pas, tu connais, toi, les jeux de société.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Donc tout ça.
Mais les parents doivent montrer l'exemple. Si vous êtes toute la journée sur votre téléphone portable et que vous attendez de vos enfants qui jouent à des jeux de société, ils vont pas vous écouter.
C'est vrai, Philippe, mais c'est à nous d'organiser
des
le temps. On ne dit pas qu'il faut priver les enfants des écrans. Il faut réguler ce temps qu'ils consacrent pour ne pas les abrutir, et surtout les écrans télé, parce que les écrans télé, c'est là où il y a les dessins animés qui n'ont ni queue ni tête, qui vraiment sont là simplement pour abrutir le cerveau des gens, alors que des fois sur Internet, on peut trouver des choses intéressantes. C'est pas toujours que bête que de regarder...
Il n'y a pas d'algorithme dans la télé. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des écrans, c'est qu'ils ont des algorithmes qui vont vous servir ce que vous attendez.
Ouais, en tout cas, l'imam Shafi'i, pour donner cet exemple, ce personnage qui était un homme qui a vécu à la fin du deuxième siècle de l'Égypte, eh bien, était un homme extrêmement perspicace et d'une très grande connaissance, et il savait utiliser ces connaissances qu'il avait pour parfois faire un travail analogique et utiliser la raison et l'intelligence pour trouver des avis et des opinions. Par exemple, une fois, un homme est venu voir l'imam Malik, qui était le maître à l'époque de Shafi'i. Shafi'i n'est à l'époque qu'un enfant. Et il l'interroge, il lui dit, voilà, j'ai dit à ma femme que... Non, il n'a pas dit à sa femme. Il a dit à un client à qui il lui a vendu un coq. Il a dit que ma femme est divorcée si ce coq cesse de crier, c'est-à-dire de chanter. Voilà, vous savez, yassih ou dik, ce qu'on appelle, on dit yassih. En arabe, c'est plutôt le terme crier, mais chanter en français, effectivement. On dit le coq qui chante, cocorico, voilà, le fameux cocorico. Et que, pour dire, parce que c'est un coq qui était de très grande qualité, que c'est un coq, voilà, brave, qui était en plus viril, capable de donner beaucoup de poussins aux poules, etc. En gros, c'était un vendeur de volailles, et il dit, pour vendre sa volaille, que ma femme est divorcée si mon coq cesse de chanter. Et bien entendu, il regrette ce qu'il a dit, il va voir l'imam Malik en disant « Oui, mais Achir, j'ai dit que ma femme est divorcée. » C'est-à-dire qu'il a dit, il a suspendu le divorce de sa femme, la répudiation de sa femme, sur le fait que ce coq ne cesse de chanter. Et bien entendu, il reconnaît que la nuit, par exemple, le coq cesse de chanter. Donc forcément, sa femme est répudiée. Il a répudié sans rendre compte sa femme par cette parole-là. Et là, l'imam Malik lui donne raison. Il dit, oui, effectivement, ta femme est répudiée, tu peux plus te remettre avec elle. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, c'est fini. Et là, ce chafi, il écoute ça, il dit, mais non, il y a cheikh, maître, on peut pas accepter ça. Il dit, comment ça, explique-moi. Il lui dit, moi, j'ai entendu le prophète dire, quand un jour, une femme est venue voir le prophète, et lui a dit, ah, Rasulallah, je voudrais me marier avec un tel, avec un personnage, un compagnon. Et là, le prophète lui dit non, ne te marie pas avec cet homme, car il a toujours le bâton sur l'épaule. Il a toujours le bâton sur l'épaule, c'est une expression arabe. La yada'u 'asahu 'an 'atiqihi ou 'an katifihi. Et là, c'est une expression pour dire que c'est un homme voyageur. C'est un homme qui tout le temps avec le, tu sais, qui met son baluchon au bout d'un bâton et qui voyage souvent. Il est jamais là, donc ne te marie pas avec cet homme car il sera souvent absent. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Donc bien entendu, quand il dit toujours, ça veut dire très souvent. Hein? Et donc le Chavé, on a fait une déduction que, eh bien, à travers ce récit du prophète, nous pouvons faire un travail analogique que ce que t'as voulu dire par rapport à ce coq, c'est que très souvent il chante et non pas qu'il chante toujours. Il est toujours en train de chanter, donc il fait qu'effectivement cette formule est fausse puisque et donc Chafé, qui était un homme analogue très très perspicace en matière de jurisprudence, eh bien a déduit en disant à cet homme là non, ta femme elle n'est pas répudiée parce que ce que tu as voulu dire c'est que ce coq là chante très souvent et non pas qu'il chante tout le temps. Donc voilà, et l'imam Malik a été étonné de la perspicacité de Chafé et lui a donné raison. Et voilà, donc je sais qu'il y avait plein d'autres choses à dire sur ce sujet-là.
On reviendra
dessus la semaine prochaine.
On reviendra, et puis de toute façon, on ne peut pas toujours tout dire sur tous les thèmes. Dans un instant, un autre épisode, Imam Abdelali Mamoun, de la vie du prophète, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM, c'est quand le départ pour la Omra, imam Abdelali?
Comment?
C'est quand le départ pour la Omra?
Alors la Omra, Inch'Allah, la prochaine, c'est le 10 février, Inch'Allah, prochain, je pars, Inch'Allah. Et donc ça y est, le carton est plein, la prochaine d'après, ça sera au mois de mai, ça sera après le Ramadan, le 1er mai jusqu'au 11 mai. Donc ceux qui sont intéressés pour partir à l'Omra au mois de mai, c'est un temps magnifique. Le mois de mai, j'aime bien l'Omra au mois de mai parce qu'il fait un petit peu chaud. Et là, franchement, un peu de chaleur, ça ferait du bien. Vous savez que ce matin, il faisait moins 4 quand je suis rentré dans la voiture. J'ai fait moins 4 sur le compteur. J'ai dit waouh, moins 4, mais ça va, on était bien mitouflés dans ma parka. Comme a dit Philippe, il est jaloux parce que je l'ai achetée, elle est toute neuve.
T'es jaloux, ah, elle est neuve.
Ouais, c'est une nouvelle parka que j'ai achetée.
C'est pour ça que la fourrure, elle fait de l'effet là.
Elle fait de l'effet, hein, t'as vu ça. Bon, qu'est-ce que je disais.
Donc c'est donc la prochaine, c'est au mois de mai, c'est à partir du 1er mai.
Tout à fait, le 1er mai, exactement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a le 8 et le 9 sont des jours fériés, et le 11 aussi. Bon, mais le 11 c'est un samedi, donc ça va.
C'est pas férié le 11.
C'est un samedi.
Oui. Donc
ouais, non, le 8 et le 9. Après le vendredi, il y a souvent un pont. Donc ça ferait 8, 9, 10. Donc déjà, une bonne partie de ce voyage-là est en période, on va dire, avec des congés, avec des jours fériés. Donc c'est sympa. Le premier aussi, déjà, il y a le premier. Le 1er mai, c'est un jour férié. Le 1er mai, c'est le jour de la fête du travail. Et donc c'est...
Donc ça veut dire que vous posez un minimum de jours et vous partez un maximum de jours. C'est ça que ça veut dire.
On essaye d'arranger tout le monde, de faire en sorte de choisir des moments qui permettent à tous de passer des moments agréables sans avoir à faire trop de sacrifices, notamment en jours de congé.
Je
sais que moi, en tant que salarié, j'ai vécu ça longtemps, où on devait compter au jour près, les heures près, les jours de congé pour obtenir du patron les autorisations d'absence et de congé. C'est pas évident, c'est vrai, pour un salarié, c'est pas évident.
Alors nous arrivons, Imam Abdelali, au terme de la vie du prophète à la Mecque, la période mécoise. Donc pourquoi le prophète décide-t-il de changer de terrain de conquête musulmane et de conversion?
Tout simplement parce qu'il désespère que parmi son peuple, c'est-à-dire le peuple de Quraysh, les habitants de la Mecque, qui je rappelle, comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, ce sont des Kinaniyins, des Quraishiyins, des Quraysh, donc Quraysh, on ne dit pas Quraishiyins, on dit Quraysh. Les Quraysh, c'est-à-dire les descendants de Kinana, Kinana qui est leur ancêtre, descendant de Adnan, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim. Donc ce sont des Arabes Musta'ariba, c'est-à-dire des Arabisés. Ce peuple d'Arabisés, originaires d'Abraham et donc qui ne sont pas des vrais Arabes de souche, puisque je rappelle que les vrais Arabes de souche sont les Yéménites Qahtaniyin, qui sont il y avait parmi les compagnons du prophète beaucoup qui étaient originaires du Yémen, c'est-à-dire qui étaient des Arabes Qahtaniyin, donc des vrais Arabes de souche, aussi ont décidé de rejoindre le prophète et d'accepter de déplacer, hein, et de transférer la nation musulmane sur un autre territoire moins hostile, et notamment un territoire qui est occupé par une population qui, elle, est Qahtaniya, c'est-à-dire originaire du Yémen. Hein, le prophète l'a même souvent dit, quand il parle du peuple du Yémen, originaire du Yémen, il dit « al-imanu yamani », la foi est yéménite. Il dira aussi « al-fiqhu yamani », la compréhension est yéménite, c'est-à-dire que c'est une qualité propre aux yéménites. Et il dira encore une belle parole, al-hikmatu yémaniya, et la sagesse est yéménite, dira le prophète alayhi salam. Donc ces médinois qu'on appelle al-ansar, ce sont les alliés qui ont accueilli le prophète et ses compagnons à Médine, sont pour la plupart des ce qu'on appelle les Aous et les Khazraj, originaires du Yémen. Ce sont des vrais yéménites, ce sont des Arabes Qahtaniyin. Donc ces Arabes Qahtaniyin, eh bien, vont eux accueillir le prophète alayhi salatu wasalam, mais avant lui vont accueillir son ambassadeur Mus'ab ibn Umair, et puis tout un panel de compagnons qui vont petit à petit partir, quitter la Mecque sur recommandation ou même parfois ordre du prophète alayhi salatu wasalam, qui lui va être obligé de rester à la Mecque parce qu'il n'a pas reçu la permission de Dieu de le faire. Alors, à quel moment il va enfin recevoir l'ordre et la permission de Dieu de le faire? C'est tout simplement quand Quraysh est constamment en train de comploter contre le prophète alayhi salam et pour essayer de tenter de nuire à sa mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont user tous les moyens, on le rappelle, la persécution, l'humiliation, les insultes. C'est pour ça, moi, que je voudrais faire ouvrir une petite parenthèse par rapport à cette histoire de Charlie Hebdo, où est-ce que Charlie Hebdo est un torchon qui effectivement n'arrêtait pas de se moquer de l'islam, du prophète, de le faire passer pour un moins que rien. Je rappelle à tous mes frères et mes sœurs que ce n'est pas quelque chose de nouveau, que même à l'époque du prophète, ce genre d'insultes et d'humiliations étaient monnaie courante, et que pour autant, le prophète n'a jamais demandé à ses compagnons de le venger, comme l'a fait ces imbéciles, et c'est un euphémisme quand je dis c'est des imbéciles, ces abrutis, ces barbares, pour moi, il n'y a pas de descriptif pour de définir ces gens qui ont massacré justement le 7 janvier 2015. Les journalistes je rappelle, de ce torchon, bien sûr, je parle d'un véritable torchon, certes, mais qui reste quand même un moyen médiatique qui est, qui était déjà en perdition, hein, déjà, il faut le savoir, hein, c'était un journal en perdition et qui n'émettait plus qu'une fois un samedi sur deux, un week-end sur deux, du moins une semaine sur deux, parce qu'on appelle le Charlie Hebdo, il était censé être hebdomadaire, mais il n'était plus hebdomadaire déjà plus un moment, hein. Il était deux fois par mois, parce qu'il n'arrivait plus à, il n'avait plus assez de clients et il ne fonctionnait plus. Donc cette histoire de Charlie Hebdo, où est-ce que on voit de manière caractéristique des personnes humiliées, insulter le prophète, ne donne pas la permission à qui que ce soit de venger le prophète, puisque cette mission, Dieu s'est réservé le droit de le faire. C'est Dieu lui-même qui a dit Inna kafayna kalmustahzi'in. C'est nous qui allons nous occuper de tous ces moqueurs. Il ne donne pas la permission ni au prophète ni à ses compagnons de le venger au moment même où Dieu sait ce qu'il passe, ce qu'il ressent au fond du dans son cœur de peine. La peine qu'il avait, le prophète, quand il entendait les koufars, les mécréants, ses ennemis, ses idolâtres l'insulter, l'humilier, eh bien, il était peiné, il était affligé. Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Je sais ce que tu ressens au fond de toi-même à cause de ce qu'ils disent. Hein, il lui dit pas ensuite, bah écoute, prends tes compagnons et va te venger et va commettre des actes terroristes ou va venger ou tuer tes détracteurs, etc. Il dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Mais au contraire, il lui dit glorifie ton Seigneur et fais partie des gens qui se prosternent. Il a pas dit des gens qui se vengent ou qui tuent ou qui voilà. Le prophète n'a jamais vengé sa personne. كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ. Mais il était simplement le vengeur selon la volonté de Dieu et sur quelque chose qui concerne la religion de Dieu. Mais c'est lui-même qui le faisait sur ordre de Dieu. Donc jamais il n'a permis à quelqu'un qu'on venge Mohammed alayhi salallahu alayhi wa sallam. Même si, bien entendu, nous condamnons ces caricatures, nous ne sommes pas du côté, nous ne sommes pas Charlie, comme disent certains, dans le sens où nous soutenons ce qu'a fait Charlie, mais nous sommes dans cet principe fondamental qui est de donner à chacun la liberté d'expression, y compris celle qui nous déplaît. Parce que nous allons nous aussi dire des choses qui vont déplaire. Donc pour pouvoir dire quelque chose qui déplaît aux autres, il faut accepter que les gens puissent dire des choses qui nous déplaisent. Donc, c'est comme ça. Il faut accepter. Pour pouvoir profiter de quelque chose, il faut aussi accepter le revers de la médaille et subir aussi ses conséquences. Donc, soit on dit « personne n'a la liberté d'expression », soit on dit que tout le monde a la liberté d'expression. Et bien, moi, je préfère que tout le monde ait la liberté. Et que si, comme on dit le proverbe, les chiens aboient, la caravane passe. Charlie Hebdo, il insulte, ben tant pis. Ben Dieu, il s'occupera de ses pas, à moi de le faire. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais rappeler, que ces terroristes qui ont commis ces actes-là odieux, eh bien, nous les condamnons et qu'en tout cas, même au nom de la religion, nous considérons que c'était totalement incompatible avec l'islam et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et le prophète, donc, a lui aussi fini par comprendre cela. Et il a dit à ses compagnons qui étaient persécutés, non pas simplement par des insultes et des humiliations, donc c'était pas simplement leur dignité, leur intégrité morale qui était touchée, mais même leur intégrité physique, ils étaient torturés, persécutés. C'est que Bilal, on lui posait des grosses pierres sur le ventre, en plein soleil, et on lui disait de prononcer la parole de mécréance, on essayait de lui faire dire, et il n'a jamais cédé. On lui disait, dis Houbel, prononce le nom, et honore notre Dieu Houbel, notre divinité, notre idole. Eh bien lui ne cessait de dire, Ahadun Ahad. Voilà comment ces hommes résistaient à l'oppression des mécréants. Mais à la fin, le prophète a dit, ça suffit, allez, partez à Médine, car il semble là-bas, des gens qui sont prêts à vous accueillir, et nous allons pouvoir de là-bas construire et nous organiser pour répandre l'islam comme Dieu nous l'a ordonné et comme il m'a ordonné de le faire. Donc voilà, le prophète va donc se préparer pour partir, et le jour il va partir, donc la veille, les notables de la Mecque se réunissent dans Dar Nedwa, ce fameux parlement mécois, où ils réfléchissent sur comment comploter pour se débarrasser du prophète. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le tuer, parce que s'ils le tuent directement, c'est la tribu de Hashimite qui va se venger de l'assassin, et pas simplement de l'assassin, mais de toute la tribu de l'assassin. Donc ils vont déclencher une guerre dans la Mecque entre deux tribus, les Hashimites et les assassins de la tribu Hashimite. Alors qu'est-ce qu'un vieux qui s'est infiltré dans le parlement, dans ce fameux Dar Nedwa, va faire une proposition perspicace, je le reconnais, très très judicieuse, notamment malheureusement contre le prophète, puisqu'il va dire, mais écoutez, pourquoi ne pas noyer son sang entre dans toutes les tribus? Il dit, comment ça? Comment ça noyer? Ben, vous lui donnez tous un coup, vous envoyez un assassin de chaque tribu, et vous lui donnez tous le coup, un même coup, au même moment. Comme ça, la tribu Hashimite ne pourra pas combattre toutes les tribus de la Mecque. Ils seront obligés d'accepter la diya, c'est-à-dire le dédommagement du sang, le dédommagement du sang, et puis on en restera là, et puis on tournera la page. Et puis on sera enfin débarrassé de Mohammed. Et donc effectivement, ils trouvent ça judicieux, c'est perspicace, c'est intelligent. Et puis chacune des tribus va embaucher un mercenaire qui va ce soir-là, la veille du départ du prophète, se regrouper autour de la maison du prophète. Mais Allah Azza wa Jal est au courant, comme le dit le Coran, « Wa yamkuruna wa yamkurullahu, wallahu khayrul makirin, ils complotent et Dieu complote au-dessus d'eux et Dieu est le meilleur des comploteurs. T'as beau comploter, Dieu sera plus intelligent que toi. Ta perspicacité sera toujours en dessous de celle de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, bien entendu, va prévenir le prophète, dit fais attention. Voilà, il y a des mercenaires, ils sont 40, hein, 40 tribus mécoises avec 40 mercenaires qui entourent la maison du prophète. Ils attendent que le prophète s'endort pour rentrer dans la maison et bien entendu lui donner le coup fatal en un seul coup, 40 coups d'épée qui sera donc noyé entre toutes les tribus de la Mecque. Le prophète, bien entendu, étant informé, informe la veille Abu Bakr et lui dit voilà, tu peux ramener les chameaux puisque nous allons enfin partir. Et Sayyidina Omar est particulièrement content de savoir qu'il sera lui le compagnon du prophète lors de ce voyage d'immigration de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la suite, inshallah, la semaine prochaine, si Dieu nous porte vie, inshallah.
Bien. La suite, la prochaine fois, comme on dit.
La semaine prochaine.
Une question d'enfant dans un instant, Imam Abdelali, puisque vous répondez tous les samedis à des questions d'enfants. Je rappelle que Maître Serhan sera là tout à l'heure avec nous à partir de 11h pour C'est tout droit, mais pour l'instant, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et cette année, on fera détox numérique hein, pendant le mois du Ramadan, Imam Abdelali.
Détox numérique.
Ouais.
Explique-moi, Philippe.
C'est que votre téléphone portable, je vais le mettre dans un panier et vous le récupérez à la fin de la soirée.
À la fin de la soirée.
Ah ouais, bah ouais.
Avec plaisir.
Voilà, détox numérique.
Mais j'en ai besoin parfois pour chercher des références.
Sais,
j'ai besoin de retrouver mes sources.
Mais
j'ai besoin d'un
détox
petit peu de mon cerveau. Parfois, il est comme une passoire et souvent les informations peuvent se dissiper, Philippe.
On vous fera passer des fiches.
On a besoin d'un rappel.
On vous fera passer des fiches.
Et on a Cher Google qui m'aide beaucoup. Je te cache pas.
Ouais.
Tu connais Cher Google?
Alors on va vous couper.
C'est le plus grand savant du monde, Cher Google.
Ouais. Alors parfois, Cher Google, il dit des conneries. Hein, je vais pas dire.
Non, il dit pas des Google. Il reprend tout ce qui se dit.
Voilà.
C'est à toi de filtrer.
Eh ben oui, mais si t'es pas capable de filtrer.
Ah oui, mais quand t'es un étudiant en sciences islamiques et que tu sais que t'as déjà, par exemple, ce qu'on appelle en arabe usul aqlam, t'as déjà le début de la phrase, le début de l'idée, t'as déjà, et puis avec un mot mémotechnique, tu peux retrouver toute la phrase correctement avec, eh bien, ça aide, Philippe, je te cache pas que ça aide que d'être obligé de mémoriser l'intégralité des références scripturaires qui sont, gigantesque, la quantité elle est énorme. Et pour un cerveau, en tout cas comme le mien, malheureusement, eh bien souvent on a besoin de se faire aider.
Ramolli.
On a besoin d'une. Comment on appelle ça?
De manger.
Laisse-moi tomber tranquille avec le manger.
Non, de manger, non, mais c'est de manger des sardines.
Comment on appelle ça? Le data, comment? C'est les bandes de données là, immenses, gigantesques.
C'est pas un data center.
Data center, voilà. On a besoin d'un. Et Google est un gros data center.
Alors, pourquoi, question d'un enfant, Imam Abdelali, dans la religion musulmane, doit-on prier 5 fois par jour?
C'est vrai que c'est propre à la religion qui parachève le message du prophète, alayhi salatu wassalam, que Allah Azza wa Jalla a demandé à son serviteur 5 rendez-vous par jour pour qu'il puisse effectivement se ressourcer, se donner un moment dans la journée, à des moments différents, pour justement réussir, obtenir la félicité, la béatitude, la quiétude, l'apaisement du cœur, l'éclaircissement, la clairvoyance divine nécessaire au succès et à la réussite dans ce bas monde. Wallahi, moi, la plupart des gens que je connais qui font la prière, eh bien, ils ne réussissent pas forcément pour devenir des grands cadres ou des grands... des personnes, chacun selon ce que Dieu lui a accordé comme perspicacité, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de capacité de raisonnement et de réussite dans ce bas monde. Mais en tout cas, souvent, ces gens-là, ils vivent heureux. Ils sont dans un état équilibré, dans une situation équilibrée. Ils ne vivent pas sur un nuage, totalement détaché du monde, comme le vivent certains moines ou dans ceux qui ont une vie monacale un petit peu isolée du monde entier. Non, pas du tout. Et ils ne sont pas aussi totalement détachés de cette spiritualité et matérialisés ou matérialistes et consuméristes, etc. Et totalement épris par le caractère rationnel de la vie d'ici-bas. Non, ils ont ce juste équilibre. Et donc, pour pouvoir créer cet équilibre, ce juste équilibre du croyant qui va nourrir son âme, qui va, comme toi, tu te dis pas, ouais, pourquoi moi je dois prendre 3 repas ou 4 repas par jour? Tu dis pas, non, moi le matin, je vais pas prendre mon petit déj, je vais pas mon rendez-vous pour mon ventre, pour mon corps, parce que mon corps a besoin d'énergie, de calories, etc. Je vais pas me priver de déjeuner, je vais pas me priver de goûter ou de dîner, ou je sais pas. Eh bien, l'âme aussi a besoin de cette nourriture spirituelle. Et donc Dieu nous demande parce que il dit que c'est nécessaire pour votre âme de la nourrir 5 fois par jour et donc de réaliser ce rendez-vous quotidien 5 fois ou ces rendez-vous quotidiens 5 fois par jour. Et l'origine de ça, c'est que effectivement, c'était 50 prières qu'on aurait dû faire par jour. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa alayhi salam, qui se trouvait au 6e siècle, a demandé au prophète Mohammed, quand il l'a rencontré au retour, d'aller demander à Dieu de diminuer le nombre de rendez-vous, de prières par jour, parce que sinon ça allait couvrir l'intégralité de leur journée. T'imagines si on devait prier 50 fois par jour, Philippe, on serait tout le temps d'une prière, tous les quarts d'heure on a une prière les unes derrière les autres, ça serait pas vivable. On pourrait pas tenir 50 prières par jour, mais 5, le prophète a jugé que c'était à la fois nécessaire et à la fois supportable pour le corps
mais
pour l'esprit.
Mais c'est donc le prophète qui a jugé.
Non, il n'a pas jugé. Quand c'est vrai que Ibrahim, quand il est arrivé au sixième siècle, au sixième ciel, et que Moussa lui dit « Repars voir ton Seigneur, car 5 prières, c'est encore trop », le prophète lui dit « Non, c'est pas trop ». Il juge par sa perspicacité, il dit « Non, c'est pas trop, je vais pas avoir besoin encore, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il m'enlève là ? Parce que depuis le début, je demande à Dieu de m'enlever 5 prières, et si là il m'en reste que 5, et que je repars le voir, il va me laisser quoi ? Il va me dire « Bon, c'est bon, aucune prière, repars, allez, je suis fâché. » Il va dire « Bah, je t'ai proposé, je t'ai fait un don, et toi tu refuses mon don, c'est-à-dire la prière. » Donc le prophète a dit « Ça y est, stop, arrête Moïse, t'abuses en voulant essayer de chercher à ma communauté, celle de Mohammed alayhi salatu salam, des facilités de ne pas avoir aucun moment de rendez-vous avec Dieu. » Et il dira donc que je pense que 5 prières, c'est raisonnable. Ça semble raisonnable que demander à une personne qui, quand il se lève le matin, il est dans sa maison, il se lève, il prie. Au moment de démarrer la journée, avant même de démarrer une journée, avant que le soleil se lève, il sait qu'avant que le soleil se lève, eh bien, il est déjà reconnaissant, il a déjà rencontré son Seigneur, avant même de rencontrer cette créature qu'on appelle le soleil. Et après, dans la journée, quand le soleil est au zénith, quand il fait le moment le plus chaud, le plus clair de la journée, là encore, le croyant oublie ce qui se passe autour de lui pendant quelques minutes et va encore une fois rencontrer son Seigneur. Quand, dans l'après-midi, le soleil s'est incliné et que l'ombre de chacun est double de la taille de la personne ou de toute chose, eh bien, là encore, le croyant a un autre rendez-vous avec la jumelle de cette première prière de la journée. Il réalise une autre prière jumelle de qui est l'Asr, qui est exactement la même prière que celle de Dohr, qui peuvent parfois même regrouper s'il est en difficulté. Et au coucher du soleil, quand le soleil s'est couché, que le soleil a disparu derrière l'horizon, il va encore une fois prier, et le soir, quand la nuit tombe totalement, il va encore une fois prier à voix haute 4 unités. Donc voilà ces 5 prières quotidiennes, et comment le croyant a besoin tous les jours de se ressourcer et ressourcer son âme. Et c'est pour cela que Dieu, qui connaît mieux que personne l'âme qui nous fait vivre, ce qu'elle a besoin comme nourriture. L'âme a besoin de nourriture, et la nourriture de l'âme, c'est la prière, c'est l'évocation, c'est l'éveil, c'est cette spiritualité que l'on retrouve et que l'on vit à travers ce moment intense où l'on s'incline, on se prosterne, on se s'humilie devant Dieu pour lui manifester notre amour. Et c'est une manière d'éduquer à chaque moment de notre vie, chaque jour qui passe, eh bien, notre âme s'élève de plus en plus vers Dieu et acquiert de plus en plus de qualités et de vertus qui plaisent à Dieu et qui permettent d'obtenir sa satisfaction. Parce que dans tous les cas, on n'en a rien à faire de ce qui se passe dans ce bas monde, si ce n'est obtenir la satisfaction de Dieu. Car la vie éternelle, celle qui véritablement nous donnera la félicité éternelle dans l'au-delà et non pas éphémère de celle de ce bas monde, c'est celle que l'on aura le jour de la résurrection. Donc c'est ça qu'il faut être conscient, et que c'est ça que nous prenons avec nous dans notre tombe. Tout l'argent que nous acquérons, nous le laissons à nos héritiers. Alors que ce que nous prenons avec nous dans notre tombe, c'est cette prière, c'est cette évocation, c'est cette élévation spirituelle, c'est ce lien intime, c'est cette satisfaction divine qui nous permet, eh bien, de le rencontrer alors qu'il est heureux de nous voir après avoir réussi cette épreuve dans ce bas monde. La prière est une épreuve, c'est un moyen de s'endurcir, d'acquérir une grande vertu qu'on appelle la patience. Hein, le Dieu dans le Coran dit « Yahuladina menu sta'inu bis sabri was sala » Ô vous les croyants, aidez-vous par la patience et la prière. Donc la prière est une qualité qui, on va dire, cultive la patience dans le corps et la pérennité, ce qu'on appelle la perdurance ou l'endurance. Et ça, c'est très important. On le fait volontiers pour un patron. On est tous les jours à l'heure. Quand votre patron vous dit à 8h, t'es là. Ben, à 8h, il est là, le gars. Parce qu'il sait qu'il a un salaire à la fin du mois. Le patron lui dit, va me chercher un café. Il va lui chercher un café. Le patron lui dit, souvent, Philippe, il y a des salariés, ils ont pas le choix. Ils font exactement ce que leur patron leur demande. Alors quand Dieu, il te dit, fais ta prière et ta récompense, ça sera pas un petit salaire, mais le paradis éternel, là, on rechigne. C'est quoi ce délire? On rechigne l'immense récompense que Dieu va nous accorder. Ou bien on n'a pas la foi. Et là, c'est une autre histoire. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question. J'espère qu'il aura
si
été.
Si mon patron me demande un café, je vais lui dire, je suis pas payé pour ça.
Voilà, il y en a qui sont payés pour ça.
Je lui dis, je suis pas payé pour
c'est
ça.
C'est vrai, tu n'es pas payé toi pour
non,
ça.
Non, alors maintenant.
Parce que t'es un cadre, c'est toi le patron, Philippe. C'est toi le chef. Philippe, attendez, je vous ai pas dit les gars là.
Non, mais c'est
lui,
pas ça.
C'est
non,
pas
mais...
n'importe qui son boulot lui. Bon voilà, on n'est pas tous les mêmes même niveau, Philippe, dans une entreprise.
Non, mais c'est pas salariés, ça. Si ça me fait plaisir de vous faire un café, ça me fera plaisir. Mais voyez,
c'est vrai que je t'ai des fois demandé un café. Tu m'as fait un café, Philippe, c'est vrai.
Oui, mais rarement. Ouais. Ça, c'est les jours où il y a du vent.
Quand il y a du vent.
Ou quand il y a du vent ou quand il fait froid.
Non, mais c'est pas.
Sinon.
Mais c'est pas une action que t'as fait de.
C'est avec plaisir. Voilà. C'est, voilà. Faut le
voilà,
faire de façon
tu l'as fait
avec
pas,
plaisir.
Avec plaisir. Voilà. Ouais, c'est par ça. Générosité.
C'est bien. Vrai, c'est alors, vrai. Pourquoi 5 prières par jour?
Eh bien, tout simplement pour pouvoir nourrir son âme. Et répondre à ces 5 moments, ces 5 rendez-vous avec Dieu. Dieu nous demande, moi ton créateur, je demande que 5 fois par jour, tu réponds à cette invitation, parce que je suis ton vrai employeur. C'est moi qui va te salarier, qui va te rémunérer, qui va t'accorder la meilleure des récompenses le jour de la résurrection. Et donc je veux que tu nourris ton âme, et que tu puisses, grâce à cette nourriture, jouir d'un bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà.
Inch'Allah. Nous, on va se nourrir avec les mandarines que vous nous avez apportées ce matin, Imam Abdelali.
Elle est très bonne, elle est très sucrée, Philippe.
C'est vrai?
Ah, magnifique.
Bien, sur facture. On vous appelle à quel numéro, Imam Abdelali?
Le 06 29 25 35 00. Ah oui, je voulais vous dire, Philippe, que le Hajj, ça y est, il s'organise. Et cette année, c'est pratiquement sûr que j'y vais, Inch'Allah, puisqu'on a signé un contrat avec une société saoudienne qui va nous garantir que nous puissions organiser le Hajj. Donc, seul qui va y aller avec moi, il faut m'appeler, il faut aussi s'inscrire sur Nusuk, l'application Nusuk, et après, je leur dirai vers quelle société il faut donc valider votre inscription et, bien entendu, vous assurer, grâce à cela, de partir avec moi et d'avoir comme guide l'imam Abdelali Mamoun, qui, je rappelle, alhamdoulilah, a acquis une certaine expérience en la matière. Alhamdoulilah, en toute humilité.
Alors ça, non, la, semaine, la semaine prochaine, on fera l'humilité. Voilà. En toute humilité, je le connais bien, l'imam Abdelali.
Je connais bien ce sujet, mais ouais, bon, Philippe, chacun il a une spécialité.
Non, mais c'est vrai, là-dessus...
Moi, si je suis là, c'est que j'ai une expertise.
Non, sur le pèlerinage, vous êtes le number one. Allez, votre numéro de téléphone, rapidement.
06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour poser vos questions, hein, pas forcément pour s'inscrire pour le Hajj ou pour la Umrah. Hein, je disais tout à l'heure, l'Umrah, il y en a une au mois de mai, 1er mai jusqu'au 11 mai, mais pour les questions 06 29 25 35 00. Voilà.
Et dans un instant, vous poserez vos questions à Maître Mourad Serran qui sera avec vous.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.